Bonsoir. Oula. C'est pas trop fort si je parle comme ça, ça va ? Non, c'est bon. Donc, bienvenue à ce cours du soir. Je suis un peu gêné qu'on appelle ça cours du soir parce que ça fait classe, école, et voilà. Et alors, moi, je suis pas du tout professeur, quoi. J'ai fait ce boulot, je suis auteur et traducteur pour justement ne pas être professeur. Et je me retrouve là ce soir. Donc excusez par avance mon manque de pédagogie et les mauvaises notes que je vous mettrai à la fin. Je suis surpris de voir autant de monde parce qu'on a déjà fait des cours du soir. Donc. Je crois que c'est la troisième fois que je le fais ici. Et il n'y avait jamais eu autant de monde. Il y avait 15 personnes, il y avait quand même beaucoup plus. Alors c'est bien. Et du coup, je me demande combien parmi vous ont vu le film Premier Contact dans la presse. Voilà, tout le monde. Donc, okay. Et combien parmi vous l'ont aimé alors? Ok. Et combien parmi vous ont lu le texte original? Okay. Donc ma mission, ça va être de faire lire le texte. Alors, ce soir.
Mais as-tu aimé le texte?
Ah, ceux qui ont lu, je ne pose même pas la question, ils l'ont forcément aimé. Puisqu'après, ils sont allés voir le film. Donc c'est moi qui ai rédigé par contre la petite intro là. Et avant de savoir de quoi j'allais parler, et du coup ça n'a plus rien à voir avec ce que. Voilà. Temps linéaire, temps orthogonal, linéaire pareil. On va survoler ça, c'est pas le principal de ce dont on va parler ce soir. Avant tout, enfin je vais essayer de faire ça en trois parties, vous pouvez rentrer si vous voulez, bien sûr. On va essayer de faire ça en trois parties. On va parler un petit peu du temps et du concept développé à la fois dans la nouvelle et dans le film. Après, on parlera de la nouvelle et après du film. Voilà. C'est de faire simple et de comparer les deux. On va commencer d'abord par les forces en présence. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas lu le texte, plus que ceux qui n'ont pas lu le texte. Donc le texte s'appelle « L'histoire de ta vie » en français. Et c'est un texte de Ted Chiang, un auteur américain, mais d'origine chinoise, qui est né en 67, plus exactement tout jeune, et qui n'a publié pourtant que 15 nouvelles. De 1991 à 2014, il n'a publié que 15 nouvelles, ce qui fait voilà, même pas une nouvelle par an. Et presque toutes, chaque fois qu'il en a sorti dans des revues ou dans des anthologies, presque toutes ont gagné des prix ou ont été nominées à des grands prix prestigieux. Donc, Ted Chiang, chaque fois qu'il sort un texte, c'est un mini-événement. On est quasiment sûr que ça va être bien et que ça va être original. Alors, en revanche, le scénariste du film Premier Contact s'appelle Eric Andrew Eisserer. Et lui, c'est un scénariste. Alors, avant de faire Premier Contact, il avait bossé sur des films aussi bons que le remake des Griffes de la Nuit, Freddy. Destination Finale 5. J'ai eu celui-là, je peux vous dire qu'il est vraiment mauvais. The Thing, c'est l'espèce de remake qui est une préquel. Voilà. Autant dire qu'on ne misait pas grand-chose sur lui, et au final, c'est plutôt... déjà, le simple concept, la simple idée de vouloir adapter ce texte, c'est déjà une prouesse. Il fallait quand même être courageux. Denis Villeneuve, lui, c'est un cinéaste canadien-français, voilà, qui avant avait fait d'autres films, et c'est son premier vrai film de science-fiction avant qu'il fasse Blade Runner. Je me souviens que c'était il y a 2 ans, l'année dernière, où il a été vu d'ailleurs ici le film, parce qu'il a été projeté ici, et moi je n'avais pas pu le voir parce que j'étais sans doute en train de donner un cours du soir. Et tout le monde était, tous les amis qui l'ont vu étaient assez soufflés, ils m'ont dit ouais, c'est super, ça respecte bien le texte. Alors, il y a des côtés, oui, vous pouvez rentrer. Il y a des côtés très bien et d'autres côtés qui m'ont plus dérangé, mais voilà. parler de ça. Et je vais essayer surtout de montrer les côtés qui me dérangent, c'est vraiment par rapport à la nouvelle. C'est pas le film en lui-même qui me dérange. Et peut-être que je vais arriver à convaincre ceux qui n'ont pas lu la nouvelle qu'il y aurait des choses peut-être un peu plus fines à faire. Ou en tout cas de prendre un autre point de vue. Pour commencer, je vais vous parler un peu du temps. Parce que tout le principe de la nouvelle est basé sur... Alors là, je suis allé voir un ami à moi qui est astrophysicien, parce que évidemment, en physique, j'y connais rien. Il m'a dit, non, mais c'est très simple, c'est basé sur le principe de Fermat. Et le principe de Fermat, il est expliqué vraiment bien dans le texte. Et d'ailleurs, dans le texte, il y a même un schéma. Alors, je pensais que j'aurais un tableau et que j'aurais pu vous dessiner comment on explique le principe de Fermat. Mais voilà, je vais essayer de vous le faire comprendre autrement. Donc le principe de Fermat, c'est le principe variationnel, ou principe de moindre action en physique. Donc je vous lis la définition qu'en a donnée Maupertuis en 1744. L'action est proportionnelle au produit de la masse par la vitesse et par l'espace. Maintenant, voici ce principe si sage, si digne de l'être suprême. Lorsqu'il arrive quelque changement dans la nature, la quantité d'action employée pour ce changement est toujours la plus petite qu'il soit possible. Et le principe de Fermat, c'est ça appliqué à la lumière. C'est-à-dire, la lumière, pour aller d'un point A à un point B, elle va toujours prendre le chemin le plus court possible. Ou en tout cas, le chemin qui lui demande le moins d'énergie possible. Ce qui revient un peu au même. Et donc, ce principe de moindre action, le principe variationnel, un outil appliqué à l'optique, donc à la lumière, s'appelle le principe de Fermat, puisque c'est Fermat qui l'a théorisé. Alors, si j'avais un schéma, un tableau, je vous expliquerai que si la lumière, on va dire qu'ici c'est la surface d'un liquide, si le point A est là et le point B est là, la lumière ne va pas forcément aller tout droit du point A au point B. Quand elle va arriver dans l'eau, elle va changer de direction. Parce que dans l'eau, pour aller plus vite, elle doit prendre une autre direction. Donc c'est ça le principe de Fermat. C'est que la lumière va savoir à un moment changer de direction. Et donc l'idée, c'est comment elle sait qu'elle doit changer de direction. J'espère qu'il n'y a pas de physicien dans la salle. Est-ce qu'elle connaît déjà l'endroit où elle doit finir la lumière. Et donc c'est ça tout le problème. Est-ce qu'elle connaît la conséquence avant la cause? Est-ce qu'elle sait où elle doit aller avant d'être partie? C'est ça la question, l'enjeu du texte, et aussi l'enjeu du film, on va le voir. Richard Feynman, un autre physicien du XXe siècle, a reformulé ce principe et a abouti à des interprétations telles que la particule teste tous les chemins possibles avec des probabilités différentes. En gros, la particule, elle sait qu'elle doit aller là, et donc elle teste le chemin le plus court pour y aller. Donc elle essaie d'aller là, c'est pas le chemin le plus court, elle essaie de passer comme ça, c'est pas le chemin le plus court, comme ça, c'est pas le chemin le plus court, et elle réduit toutes les possibilités comme ça jusqu'à trouver vraiment le chemin le plus court. Et donc toutes ces possibilités qui sont réduites sont des univers parallèles non réalisés en gros. Et c'est un principe qu'utilise un auteur de science-fiction qui s'appelle Greg Egan, un auteur australien. La réduction du paquet d'ondes, ça s'appelle, notamment dans un roman qui s'appelle Isolation. Son personnage principal dans Isolation, à un moment, j'en souviens, arrive devant une porte où il doit taper un code pour entrer. Mais il ne connaît pas le code. Sauf que lui, il est capable de réduire le paquet d'ondes, de réduire toutes les probabilités. Donc, il essaie un code et c'est le bon. En sachant que il y a eu autour de lui, dans des univers parallèles non réalisés, il n'en sait rien, une infinité d'autres lui-même qui ont tapé le mot du code. Voilà, et lui a tapé le mot. Voilà, c'est le même principe de Philippe. Si je me trompe ou si vous ne comprenez pas, vous avez le droit de m'interrompre. Parce que je ne suis vraiment pas calé en physique, donc j'essaie de... Voilà. Chiang, lui, alors peut-être Chiang dans le texte, et il nous explique que la façon dont les Heptapodes écrivent se rapproche de ça, de ce qu'il appelle la téléologie dans le texte, c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà la cause finale, ils savent tout du futur. Vous rappelez dans le film, ça c'est un des trucs qui est super bien fait dans le film, c'est qu'ils écrivent en rond comme ça, et que ben, ils savent déjà avant de commencer leur rond comment leur rond va finir en fait. C'est comme si nous, et ce que Chiang explique aussi dans le texte, on écrivait une phrase en partant en même temps du début
et de la fin.
Voilà, pas au début, à la fin, non, en même temps. Et on sait comment ça va se relier, on connaît déjà la destination finale. Donc c'est ce que Chiang dans le texte appelle la téléologie, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas retenu par la physique actuelle, qui elle est toujours attachée au principe de causalité. La lumière ne sait pas où elle ne peut pas savoir où elle va. Une cause entraîne un effet, c'est pas l'effet qui entraîne le trajet de la lumière. C'est pas de savoir où elle va qui lui dit par où passer. Même en physique quantique, où selon qu'on regarde ou pas, on a des effets différents, on arrive tout de même à trouver des explications. Vous savez, le chat de Schrödinger, s'il soit vivant, soit mort, et quand on ouvre, ben, on va voir s'il est vivant ou s'il est mort. Mais ça, les physiciens arrivent à trouver des explications. Mais ici, dans le texte de Chiang, les heptapodes, donc les extraterrestres, impliquent eux qui savent la fin de la phrase avant de la commencer. Et donc ils connaissent le futur. Donc, de notre point de vue, ils n'auraient pas de libre arbitre. Ils sauraient déjà ce qu'ils vont dire avant de le commencer. C'est leur langue qui est structurée comme ça. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est vraiment une différence de point de vue, c'est quelque chose qui est vraiment à côté de nos idées à nous, de cause et d'effet, notre façon de construire le langage. Eux, leur point de vue, c'est pas j'ai le libre arbitre, je vais faire quelque chose parce que j'ai choisi. Non, c'est eux, ils font ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et c'est ce qu'explique Chiang dans le texte, quand il dit, bref, ça nous arrive aussi, il donne un exemple qui se rapproche de l'humanité, il dit ça aussi, par exemple, quand nous, on va à un mariage ou on se marie, ben, on sait très bien ce qui va se passer, mais tant que le maire ou le curé n'a pas dit « je vous déclare mari et femme », ça ne s'est pas passé, mais on sait que ça va se passer. Et eux, c'est pareil. Tant qu'ils ont, ils savent très bien ce qui va se passer à l'avenir, mais tant qu'ils n'ont pas fait leur phrase, ben, ça ne s'est pas encore passé, même si ça va forcément se passer. Pour ceux qui ont vu le film, voilà, ramener ça au fait que la femme sait ce qui va se passer et que voilà, donc elle change de point de vue. C'est un truc qui est beaucoup mieux expliqué dans le texte. Donc tout le principe, c'est que Louis Banks, dont l'héroïne de l'histoire de ta vie, se met à penser comme eux, en apprenant leur langage, et que donc elle voit elle aussi, au bout d'un moment, les causes finales, et donc qu'elle commence à voir le futur. Donc ça, c'est le principe du texte et de la nouvelle. Donc c'est un principe value, c'est le principe de Fermat de la lumière, appliqué à des extraterrestres et des êtres humains. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le concept science-fictif pur, assez dingue, mais qu'il arrive quand même à rendre. Je veux dire, personne. Vous avez tous aimé le film, donc vous avez tous marché dans la combine, quoi. Vous avez tous dit, ah ouais, ok, c'est possible. Donc voilà. Et le tour de force au moment du texte, donc là on passe à la deuxième partie, on va parler du texte plus spécifiquement, c'est de nous faire avaler assez rapidement que Louis Banks parvient à se souvenir du futur. Parce que c'est de ça dont il s'agit pendant tout le texte. Dès le départ, dès le début du texte, elle dit « Je me souviens quand tu auras. » Voilà. Donc « Je me souviens du futur. » Voilà. Elle ne l'a pas vécu, mais elle le connaît déjà.
Sauf que ça peut être un point de vue rétrospectif, en fait.
Pas dans le texte.
C'est comme ça qu'on
le... Pas dans le texte.
Dans le texte, en fait. On imagine qu'elle est dans le futur et qu'elle parle du passé quand vous voyez ça.
Non, justement, parce qu'elle dit « je me souviens quand tu auras ». Elle parle au futur.
Oui, mais elle peut s'adresser à sa fille âgée, à qui elle évoque le passé de cette fille âgée, en fait.
Oui, mais elle l'évoque au passé.
C'est justement la subtilité du texte qui est... Oui, je suis d'accord.
Dans le film, c'est plus ambigu, ça. Mais, ouais. Donc, je rappelle l'intrigue...
Ça marche bien dans le film, je trouve. Ça marche beaucoup mieux parce qu'on est étonné quand on apprend qu'en fait, c'est pas le flashback, mais c'est un flashback. C'est beaucoup mieux fait dans le film, je trouve, que dans la nouvelle.
C'est plus compréhensible dans le film. C'est...
Ok.
Quand on comprend dans le film, ça va se
Non, non, c'est pas mon point de vue, je vais essayer de vous expliquer. Donc, juste un point sur l'intrigue. Bon, vous avez tous vu le film, donc c'est pas la peine de le rappeler. C'est à peu près la même intrigue. Il y a le prénom du physicien qui change, je crois, c'est très important. Qu'est-ce qui change d'autre? Enfin bon, l'intrigue est à peu près la même.
C'est au niveau géopolitique, il n'y a pas tous les trucs géopolitiques.
Je vais détailler après dans le film. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de. Il y a des vraies différences narratives. Donc voilà, dans le texte, c'est dit dès le début, je me souviens du futur, mais on ne comprend pas, par contre, elle se souvient du futur, elle dit je me souviens quand tu auras, et ça donne aussi une espèce de vertige, parce que qu'est-ce qui se passe? Je me souviens quand tu auras, elle se souvient du futur, qu'est-ce qui se passe? Donc on ne comprend pas. Souvent, le plaisir d'un texte de SF, c'est de lire le début d'un truc, et puis on ne va pas comprendre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation qui nous désarçonne complètement. Et on sait qu'à la fin du texte, ben, normalement, si c'est bien fait, on aura compris ce qui se passe vraiment. Et que ce sera quand même très bizarre, mais qu'on aura compris. Donc là, c'est vraiment ça, c'est « je me souviens du futur ». Donc la vraie question du texte, c'est le déterminisme. Tout ce qu'on fait est déjà écrit, il n'y a pas de libre arbitre. Et donc Chiang propose une solution à ça, en prenant le problème en biais. Au lieu de dire on est prisonnier des événements, non, lui, il va dire tout est déjà écrit, mais nous sommes quand même libres. Notre mode de conscience à nous ne nous permettra pas de le comprendre, mais si nous adoptions un autre point de vue, peut-être que nous le pourrions. Donc c'est à ça souvent que servent les extraterrestres. Donc je vous lis un petit extrait, j'ai pris quelques extraits du texte parce qu'ils expliquent mieux ce que je pourrais moi vous expliquer. Donc là, pour expliquer le changement de point de vue. La liberté et la prédétermination telles que nous entendons ces idées ne s'appliquent pas aux êtres apôtres. Ils n'agissent pas selon leur volonté et ne sont pas non plus des automates impuissants. Ce qui caractérise leur mode de conscience, c'est non seulement que leurs actions coïncident avec les événements de l'histoire, mais aussi que leur motivation coïncide avec les objectifs de l'histoire. Ils agissent pour créer le futur, pour promulguer la chronologie. La liberté n'est pas une illusion, elle existe bel et bien dans le contexte de la conscience séquentielle. La conscience séquentielle, donc, c'est notre mode de penser à nous. Quoi. La conscience qui veut qu'une cause produise des effets. Dans celui de la conscience simultanée, la conscience simultanée dans le texte, c'est la conscience des apôtres qui, eux, ils voient tout en même temps. Donc, dans celui de la conscience simultanée, la liberté n'a pas de sens, mais la coercition, pas davantage. Les contextes diffèrent, et l'un n'est pas plus valide que l'autre. Voilà. Donc, eux, ils ont, d'après Chiang, ils ont autant de libre arbitre que nous. Ils savent très bien ce qui va se passer jusqu'à leur mort, puisqu'ils voient le futur, ils voient tout en même temps. Mais ils ont tout de même conscience d'être libres, de leur point de vue. Voilà. Donc ça, c'est la théorie de Tetchin. Et c'est un peu ce qui revient à la fin du film, où l'héroïne sait tout ce qu'elle va faire, mais elle n'a d'autre choix que de le faire, mais en même temps, on ne la sent pas crouler sous le poids du destin, et on la sent quand même embrasser un peu ce futur. Elle promulgue, elle aussi, le futur. C'est à ce moment-là que je voulais vous parler du temps orthogonal, qui est un concept un peu bizarre aussi dans Philippe K. Dick. parlé, qui est le fait que bah, tout se déroule en même temps. Quoi.
C'est pas Greg Egan ?
Greg Egan aussi, ouais, ouais. Mais alors, chez les Zetapod, voilà, c'est en, eux, ils savent tout ce qui va se passer en même temps. Chez Dick, c'est, il y a pas un présent qui a suivi un passé, un futur qui suit le présent, non, il y a comme présent, mais il y a plusieurs présents. Il y a une infinité de présents les uns sur les autres. Voilà. Donc il y a le présent de la Rome antique, il y a un autre présent à nous, il y a le présent du futur, mais c'est tout est en même temps. C'est assez compliqué à expliquer, assez fumeux aussi parfois, en tout cas dans ce qu'on en fait. Et il y a ici, là, je pense, une vision assez... alors c'est jamais cité dans le texte de Chiang, mais je pense qu'il y a là aussi une vision du temps tôt. Là. Qui est un concept assez peu utilisé. Je ne me souviens plus dans Craig Egan dans quoi il utilise, mais c'est un concept pas très utilisé dans l'essai.
Je crois qu'il a écrit trois romans, mais ça n'a pas été traduit en français.
D'accord. J'ai pas lu. J'ai lu beaucoup ses textes, ses premières nouvelles et tout ça, mais au bout d'un moment, ça devient trop compliqué pour moi. Il y a aussi un autre truc que je trouve très fort dans le texte, c'est sa narration. Le fait que, contrairement au film, il n'y a pas cette espèce de twist où à un moment on comprend que les souvenirs, c'est dès le début, il y a les souvenirs qui sont mêlés à l'intrigue principale du langage. Voilà. Parce que les deux intrigues dans le texte, c'est juste communiquer avec les étapodes et les souvenirs avec la fille, les souvenirs du futur. Donc dès le départ, on sait que qu'il y a une fille, qu'elle est dans le futur, il n'y a pas cette espèce de retournement. Ah ben non, c'était pas avant, c'est et donc Ted Chiang, il utilise le fait de mêler le futur au présent de l'intrigue, donc d'alterner les chapitres comme ça, enfin les petits paragraphes, pour donner au lecteur une vision du temps orthogonal. C'est-à-dire que nous, on lit une histoire qui est à la fois le présent et le futur. Donc il essaye un peu, dans sa narration, de nous faire adopter le point de vue de l'héroïne. À défaut de nous faire adopter le point de vue de Zetapod, ce qui serait peut-être un peu compliqué, toute sa narration consiste à nous mettre dans l'état d'esprit du principe qu'il veut expliquer. C'est en ça que je trouve que moi le texte est très fort, parce qu'on ne reprend pas le film. Le film, il fait un effet... fait un effet narratif plus hollywoodien. Le texte, lui, essaie vraiment de nous mettre dans l'état d'esprit de ces personnages.
Si tu me permets, c'est peut-être vrai après coup, parce que selon moi, quand je l'ai lu, les temporalités, je ne les ai pas superposées. Moi, en fait, j'ai pensé à différentes temporalités, mais pas de la façon à la fin on le comprend, en fait.
Oui, mais de fait, on a quand même un futur en même temps que le présent, même
oui,
si on le sait pas.
Je suis pas sûr. Alors, l'idée de même temps, je suis pas certain que je perce comme ça, de fait. Mais en fait, bien sûr, on est d'accord.
En tout cas, on est quand même désarçonné de qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, même si inconsciemment, on se dit qu'il y a un problème de temporalité. Quoi. Et une autre chose aussi qui est très bien dans le texte, c'est que... les deux parties se font écho à chaque fois, thématiquement et aussi narrativement. Alors je vais vous lire deux petits extraits pour vous montrer exactement ce que je veux dire par là. Puis en plus c'est un extrait où voilà, il parle de la langue et c'est aussi ce qui fait le sel du texte en fait c'est de la linguistique en fait, à la fois de la physique et après il y a de la langue aussi. Ce qu'on entreaperçoit dans le film, et qui est pas mal fait d'ailleurs, c'est beaucoup plus développé dans la nouvelle, et on rentre un peu plus dans les rouages du langage. Donc, si j'avais pu décrire la situation d'une personne qui a mignon les tenants et les aboutissants, celle-ci aurait pu me demander pourquoi les Zetapod, en sachant déjà tout ce qu'ils allaient dire ou entendre, se donnaient la peine de prendre part à la discussion. Une question raisonnable. Mais le langage ne sert pas qu'à communiquer, il s'agit aussi d'une forme d'action. Selon la théorie des actes de langage, vous êtes en état d'arrestation, je bâtis ce navire, je vous le promets, était un énoncé performatif. Le locuteur n'effectue l'action qu'à condition de prononcer les mots. Ce que je vous disais tout à l'heure avec... pour ses actes, savoir ce qui serait dit ne changeait rien. Au cours d'un mariage, chacun s'attendait à entendre la phrase « Je vous déclare uni par les liens du mariage », mais jusqu'à ce que l'officiant les prononce, la cérémonie ne comptait pas. Dans un langage performatif, dire égale faire. Pour les heptapodes, toute langue était performative. Au lieu d'utiliser le langage pour informer, ils s'en servaient pour réaliser. Bien sûr, ils savaient déjà ce qui allait se dire durant une conversation, mais afin que ce savoir s'avère, la conversation devait avoir lieu. Il faut que, quand même, les choses se fassent pour qu'elles se soient faites. Ils savent qu'elles vont se faire, mais ils ont quand même besoin qu'elles se fassent. Donc ça, c'est la fin d'un paragraphe et la fin d'une scène avec les heptapodes. Et cette scène est aussitôt suivie de ça, d'une scène avec Wisborg et sa fille, et ça enchaîne directement. Boucle d'or a pris le bol de gruau du papa ours, mais il était plein de choux Bruxelles, et elle détestait ça. Tu éclateras de rire. Donc là, on est vraiment au futur. La narration, c'est le futur. Non, c'est faux. On sera assis côte à côte sur le divan, l'album, mince et hors de prix, étalé sur nos genoux. Je continuerai. Puis Boucle d'or a pris le bol de gruau de la main en ours, mais il était plein d'épinards et elle les détestait aussi. Tu poseras ta main sur la page pour m'arrêter. Chut, tu dois le lire comme il faut. Mais je lis juste ce qu'il y a de marqué, répondrai-je, l'innocence incarnée. Non, c'est pas vrai, c'est pas la vraie histoire. Si tu connais déjà la vraie histoire, pourquoi veux-tu que je te la lise? Parce que je veux l'entendre. Donc la petite fille, elle est comme les heptapodes, elle connaît la vraie histoire. Mais elle veut quand même l'entendre. Elle veut que sa maman lui raconte vraiment l'histoire de Boucle d'or, et pas une version qu'elle invente. Et c'est le jeu, en fait, de narration et de thématique et de superposition. C'est vraiment ce qui, pour moi, fait la puissance du texte. C'est pas juste l'idée et le côté esbrouf un peu du « je vais essayer de vous expliquer comment on peut voir le futur ». Non, c'est aussi que narrativement, thématiquement, Chiang, il a travaillé son texte de façon à ce que ce soit imparable. Là, c'est vraiment... Alors, on s'en rend pas compte, sans doute, en lisant comme ça le texte, mais en étudiant un peu les thématiques et tout, on voit que c'est quand même... c'est pas juste un mec qui maîtrise un peu la physique, c'est un mec qui maîtrise aussi un peu l'écriture. Donc, tout le texte, c'est là où je voulais insister. Voilà, je joue vraiment sur l'accumulation des séquences et une narration. Ted Chiang, il essaye de faire une narration simultanée comme le langage des heptapodes et une émanation d'une conscience simultanée. Et donc, ça, c'est quelque chose que ne tente même pas le film. Ah, pourquoi? Parce que ça, sans doute, ça serait trop compliqué, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qu'on choisit d'évacuer les cinéastes. Et donc, eux, ils sont partis sur un autre mode de narration. Le film, lui, donc, il intègre plutôt bien les souvenirs de Louise au fur et à mesure qu'elle les acquiert, comme dans le texte. Ça, là, je vais vous lire aussi un petit paragraphe où elle explique comment ça se passe pour elle. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film. Même si je lis et que j'écris couramment l'heptapode B, je sais que je ne fais pas l'expérience de la réalité à la façon d'un heptapode. Mon esprit a été moulé à l'humaine, pour les langues séquentielles. Aussi poussée soit-elle, aucune immersion dans une langue extraterrestre ne le remodellera totalement. Ma vision du monde restera un amalgame. Avant que j'apprenne l'heptapode B, le volume de mes souvenirs augmentait comme une colonne de cendres de cigarettes bâtie par la braise, qui représentait ma conscience et marquait le présent séquentiel. L'image de la cigarette est plutôt jolie, on comprend bien comment ça marche. Après que je l'ai appris, les nouveaux souvenirs se sont mis en place tels des blocs gigantesques, chacun d'une taille mesurée en années. Donc là, elle reçoit des blocs d'années de souvenirs. Même s'ils ne se présentaient pas dans l'ordre, ni ne se disposaient de façon contiguë, ils ont fini par couvrir 5 décennies, la période durant laquelle je maîtrise assez bien l'heptapode B, pour penser dans la langue, débute par mes entretiens avec Flipper et Framboise. Enfin, c'est pas la beauté Costello, c'est Flipper et Framboise peut-être. Donc elle débute par mes entretiens avec Flipper et Framboise et s'achève par ma mort. Elle inclut le reste de ma vie et l'intégralité de la tienne. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'on regarde le film.
I Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. We are so bound by time, by its order.
Non, j'arrête là. Désolé, je pensais que j'avais mis les sous-titres, mais bon, vous avez compris, elle dit les souvenirs ne sont pas ce que je pensais. Et nous sommes vraiment. Ils sont pas ce que je pensais, nous sommes vraiment liés par le temps, en fait. Elle se sent. Voilà, c'est ce qu'on est. On est engrossé par le temps. Donc là, d'entrée, ça c'est vraiment le début du film, la question du déterminisme se pose. Elle dit voilà, on est bloqué par le temps. Mais elle semble aussi dire que le temps linéaire est une prison, qu'on ne peut pas y échapper. Donc ça, c'est toute la question du film. Est-ce qu'elle pourrait y échapper? Est-ce que c'était vraiment une prison? Donc maintenant, je vais lister quelques différences entre le film et le texte, puisque pas mal d'entre vous n'ont pas lu le texte. Et puisqu'on compare les deux, c'est un peu le but du jeu. Donc dans le texte, l'arrivée des Octapodes n'est pas du tout dramatisée. Ça commence, elle dit qu'il y a des extraterrestres qui sont arrivés, mais comme ça au détour d'une phrase, sans vraiment s'attarder là-dessus. Dans le film, c'est... il y a une alarme, il y a des bagnoles qui se rentrent dedans parce que les mecs qui le conduisent mal, ils sont la tête ailleurs. Enfin, c'est... Le monde entier retient son souffle. Qu'est-ce qui se passe? On voit les chaînes d'infos. Enfin, donc c'est un peu la panique. Un enjeu qu'il n'y a pas du tout dans le texte. Il n'y a pas du tout d'enjeu guerrier non plus. Dans le texte, les Octapodes, ils débarquent, ils repartent. On ne sait même pas pourquoi ils étaient venus. Alors, dans le film, c'est un peu expliqué. Enfin, ils disent. Un peu expliqué. C'est dans 3 000 ans, on aura besoin de terrien, donc on vient vous offrir quelque chose. Mais dans le texte, moi j'aime bien Chiang en fait. Voilà, son propos c'est pas ça, donc il dit bon, je n'ai rien à foutre de ça. Ben voilà, il repart. Moi j'aime assez ça parce que le reste il le fait très bien, donc voilà, on s'en fout. Donc après, voilà, je comprends bien que dans un film il faut un peu de la tension dramatique, ce qu'il n'y a pas du tout dans la nouvelle, voilà, aucune tension dramatique. C'est vraiment un trip plus un télo et plus basé sur ce que peut se permettre un texte littéraire, quoi, de se baser simplement sur de la connaissance, de la réflexion. Dans un film, il faut quand même tenir en haleine, il faut quand même. On peut essayer, mais c'est plus compliqué.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quand même que s'il y avait des. Comme les Octapodes qui arrivent, enfin, les humains ne seraient pas là à faire.
Peut-être, mais en tout cas dans le texte c'est pas tu vois, là aussi c'est pas son propos, lui son propos c'est la nana, le physicien et leur fille et les Octapodes, comment ils apprennent. Il veut pas dramatiser ça parce que ça lui ferait partir dans voilà, plein d'autres choses. Donc au détour d'une phrase elle dit ils sont arrivés, voilà. Okay. Autre chose qui, alors là c'est un truc qui me gêne un peu plus dans le film, c'est qu'on dramatise l'action, ok, ça a des conséquences un peu bizarres, on verra après. Moi, ce qui m'a embêté, mais direct, dès que j'ai vu. Alors, j'ai pas vu mon Utopia, j'ai vu en début d'année une séance avec un astrophysicien et puis une littéraire qui expliquait le film et tout, c'est assez intéressant. Mais d'entrée, les violons, quoi. Les violons. C'est la musique pour faire pleurer direct, donc c'était bizarre. Et alors que dans le texte, c'est pas du tout ça, quoi. Dans le texte, là, on fait. Donc là, j'ai revu le film avant de préparer ce cours, et tout de suite, voilà, c'est clair, il y a un enfant qui meurt, quoi. Donc, c'est assez plombant. Alors dans le texte, c'est. Elle meurt à 25 ans dans un accident d'escalade. Donc, ouais, le potentiel lacrymal, il est moins fort dans le texte, je veux bien, mais je trouve qu'ils en faisaient un peu trop dans le film. Quoi. À la fin, quand les autres violons reviennent, c'est le moment où il faut pleurer, hein, c'est bon. Hein.
C'est parce qu'il veut marquer le début et qu'on l'oublie, mais il cherche à marquer pour qu'on y repense ensuite.
Je pense. Mais je trouve que voilà, l'utilisation de la musique, c'est vraiment sortir au mouchoir, quoi. Et c'est presque pavlovien à la fin, c'est la musique qui revient. On a vu la fille mourir au début avec les violents. Ouah, le paquet de Kleenex, il est déjà dans le même.
Après, il y a aussi une volonté de marquer le propos, parce qu'au final, on dit bien, ben voilà, je sais que ma fille va mourir, mais pourtant, je vais faire le choix de vivre cette vie-là. Du coup, effectivement, ça a du sens.
Alors moi je pense qu'effectivement au-delà de la dimension lacrymale sensationnelle, effectivement je pense que le choix de la mort de la fille est très significatif parce que j'en ai parlé avec d'autres gens et on m'a dit mais ce qu'il y a c'est que la maladie dans le film on ne peut pas l'éviter, ça arrivera de toute façon. L'accident d'escalade, ça nécessite aussi que le spectateur comprenne la logique de « je sais qu'elle va mourir, mais je ne vais pas l'empêcher d'y aller. » Parce que je sais que les choses doivent se produire comme ça, alors que la maladie, c'est un côté plus définitif.
Bah, y a un peu aussi que... Oui, oui, non, les spectateurs n'auraient pas compris, quoi, je pense. Si voilà, elle mourait dans un accident, ça aurait pu être, je sais pas, un accident de bus. Pourquoi elle n'empêche pas de... Voilà, les spectateurs, oui. Mais c'est ça qui est bien dans la nouvelle aussi, c'est que à un moment, elle part dans les Alpes, peut faire de la suppulsion dans les Alpes, peut faire de l'escalade, et là on se dit oui, sa mère aurait pu, mais non, elle peut pas. Et dans le film, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place. Et dans le texte, il nous a tellement expliqué ce que je viens de vous expliquer aussi, si vous avez compris. Donc on se dit, bah, de toute façon, non, c'est pas. Autre chose aussi, bah là, ça ressort. De toute façon, tout ce que je vous dis là, ça ressort, on va dire, du sensationnel, mais ça ressort du fait que c'est un truc plus immédiat et qu'on a besoin de marquer les choses visuellement, mais voilà, il n'y a aucune menace dans le texte. Il n'y en a pas dans le film en réalité, mais les terriens perçoivent tout comme une menace, quoi. Il y a l'armée directe. Là aussi, dans le texte, c'est l'armée, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de. On s'inquiète un peu, on a envie de vraiment savoir ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas. Oh, il va y avoir la guerre avec les Chinois et. Non. Là, dans le texte, il y a 120 miroirs. Donc en fait, ils envoient des miroirs sur Terre, et il y en a 9 aux États-Unis. Et donc, ils ne sont même pas là, en fait, les Zetapodes. C'est des systèmes de projection, ils sont derrière des miroirs, un peu vraiment comme dans le film, mais ils ne sont pas présents, ils sont dans leur vaisseau, et ils ont envoyé des miroirs sur Terre. C'est un truc qui rappelle les enfants d'Icare, hein. Le bouquin d'Arthur C. Clarke aussi, qui présentait des. Je sais pas si vous l'avez lu, sinon je.
Donc une série.
Ouais.
Des dialogues, en fait, je trouve.
J'ai pas lu, mais.
War Chuck Woodspell.
Ouais, c'est ça, c'est le titre original. Qui est. Alors, je vous le spoil ou pas?
Non,
alors je ne spoil pas. Mais en gros, les extraterrestres aussi ne se montrent pas pour une raison bien particulière. Et ça, c'est un vrai choc de SF aussi, un vrai bon twist. Pourquoi les extraterrestres ne veulent pas se montrer à l'humanité? Ouais. Un autre truc aussi, alors ça m'a vraiment dérangé parce que. Enfin, moi, je vous fais part de mon ressenti. Hein. Là, on n'est plus dans l'analyse ou quoi. Cette espèce d'absence d'humour qu'il y a dans le film. Dans le livre, il y a plein de moments drôles. Voilà, je vous ai lu Boucle d'or, mais il y a plein d'autres trucs. Après aussi, c'est un problème narratif aussi, quoi. Mais dès le début, alors, on voit sa fille mourir, donc on se dit elle est déjà morte, et on voit que l'actrice, elle fait la gueule dans tout le film, quoi. On se dit, ben ouais, c'est normal, sa fille est morte, quoi. Non, en fait, sa fille n'est pas morte. En fait, la meuf, elle fait la gueule depuis le début, on ne sait pas pourquoi. Et il y a une espèce de pathos comme ça elle habite dans un appart meublé par un décorateur Ikea, il n'y a rien qui dépasse. Donc là, quand j'ai relu le texte, quand le mec de l'armée vient la chercher, elle a une pile de bouquins sur un fauteuil qu'elle est obligée de bouger pour qu'il puisse s'asseoir. Dans le film, en fait, tout est nickel. Tout est carré, elle a un bureau de rêve, les livres sont bien rangés, enfin bon. La meuf est un robot, en fait. Ce qui explique peut-être pourquoi elle s'en fout, en fait, de sa fille. Non, je crois que voilà, c'est un truc narratif aussi pour nous aider à croire que voilà, sa fille est déjà morte. Alors, par contre, un des trucs que moi, je trouve très très bien dans le film, c'est l'écriture des heptapodes visuels, quoi. Parce que dans le texte, on peut s'imaginer ce qu'on veut, on imagine des trucs, mais eh ben, ce qui rend à l'écran, c'est mieux que ce qu'on peut imaginer. Quoi. Parce qu'on a du mal justement à s'imaginer et à vous expliquer. Et là, ben, on voit un truc qui, oui, ok, et puis ça explique bien le système en fait, d'écriture et de pensée des étapes. Après, les explications évidemment sur le langage sont beaucoup plus simples dans le film, et ça c'est obligé. Enfin, il ne pouvait pas s'étendre et nous expliquer comment les trucs que je vous ai lus. Un truc qui est bizarre quand même dans le film, c'est qu'à un moment, elle parle de l'hypothèse de Sapir-Whorf. C'est alors là, j'ai copié Wikipédia. Alors moi je connaissais parce que c'est un truc qui est utilisé dans d'autres textes de SF. Notamment l'enchâssement de Ian Watson et Babel 17 de Samuel Delany aussi. Ouais. Et donc, Sapir-Whorf, c'est l'hypothèse, alors je vous lis en linguistique et en anthropologie, l'hypothèse de Sapir-Whorf soutient que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques. Autrement dit, que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage. Alors, tel que formulé par ces auteurs, il ne s'agit pas à proprement parler d'une hypothèse scientifique, mais plutôt d'une vision générale du rôle du langage dans la pensée, que Whorf illustra à travers l'exemple de la langue esquimo, qui disposerait selon lui de trois mots pour désigner la neige, là où l'anglais n'en aurait qu'un. Donc en gros, c'est comme les esquimaux, ils ont trois mots pour la neige, et ben, ils ont une vision beaucoup plus complète de ce qu'est la neige que nous, et ça modifie leur perception de la neige et du monde.
Je ne suis pas sûr que ce soit exact, parce qu'il me semble que c'est beaucoup plus.
Je lis Wikipédia, je n'ai aucune idée. Enfin, vous comprenez le principe, quoi. En gros, notre langage façonne notre vision du monde. Et donc, cette théorie, en fait, elle a été, ils ont essayé de la prouver 20 fois, elle a été réfutée. Quoi. C'est une super théorie pour faire des bouquins de SF. Quoi. Les deux bouquins que je vous ai cités sont super. En revanche, ça ne tient pas la route. Et dans le film, il la mentionne, alors c'est peut-être juste pour lâcher comme ça une théorie scientifique et dire ouais. Mais alors que dans le texte de Chiang, elle n'est pas du tout citée et qu'il n'utilise pas ça, parce que lui, il sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ouais, ça c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi.
On comprend, elle est assez à propos. Au final, la façon dont on parle des éclateurs leur permettre d'élargir justement leur vision du monde et du temps. Alors que nous humains, avec notre façon de penser séquentiellement, on ne voit pas la vie.
Ouais, alors sauf que dans Sapir-Whorf, c'est quand même plus simple, c'est juste sur le vocabulaire et voilà, là c'est un truc sur le langage qui est un peu plus compliqué. Voilà. C'est le principe variationnel plutôt que Sapir-Whorf. Mais sinon, ouais, ça
dans l'absolu, ça.
C'est plus comme une analogie en fait.
Oui, je pense, ouais. Ouais, dans le film, c'est plutôt. C'est un peu implicite que c'est à cause de Sapir-Whorf qu'elle change. Enfin bon, bref, on rentre dans les détails. Alors là, le truc qui m'a fâché vraiment dans le film. Après, bon, c'est des questions de goût, de. Voilà. Moi, les violents, moi, ça me gagne. Mais ça, c'est. En revanche, il y a un truc qui me gêne vraiment parce que. C'est pas logique, et quand j'ai lu, ça m'a vraiment coupé tout ce qui était crédit dans le film ne marchait plus tout d'un coup. Il y a une boucle temporelle en fait, il y a une rétrocausalité. Quoi. Et ça, c'est une impossibilité scénaristique, enfin, ça peut pas marcher. Quoi. Alors, je vous la montre. Ah, par contre, j'ai plus les sous-titres, je sais pas où ils sont passés. Bon, de toute façon, ce truc-là, il n'y a pas besoin de sous-titres.
Down here. We'll take this with us.
Ça m'embête en fait.
Pardon ? C'est le paradoxe de l'écrivain, parce qu'il vaut vraiment manuscrit dans
le... Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est le paradoxe de l'écrivain. C'est-à-dire que là, elle se souvient du futur, et en se souvenant du futur, elle voit le livre dans lequel elle a traduit, en fait. Et elle, voit, elle se souvient des cours qu'elle a donnés. Et donc, en se souvenant du futur, elle se souvient de ce que veut dire son, le truc qu'elle a sous les yeux. Donc là, le paradoxe, c'est quand est-ce qu'elle a appris les symboles, quoi. Si elle les apprend en se souvenant qu'elle les sait déjà, quand est-ce qu'elle les apprend?
Et pour le prénom, c'est pareil. Pour savoir le prénom de l'épouse du dirigeant, il lui dit dans le futur, et c'est pour ça qu'elle lui souffle dans le passé.
Alors là, c'est pire. Non, parce que ça, ça marche, par contre. Parce que là, il n'y a pas de création... Voilà, il n'y a pas quelque chose qui est créé avec Nilo, en fait. Le prénom de la fille, voilà, elle va s'en souvenir. Mais il existait déjà, elle avait déjà un nom, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui coince dans cette scène, c'était mon propos d'après.
C'est pas comme pour le prêtre qui voulait se marier. C'est-à-dire que là, bon, elle lui dit qu'elle sait le lire, alors que déjà, depuis quelque temps, elle arrive à le déchiffrer.
Ouais, mais les symboles en question, elle les apprend en voyant son livre ou en voyant ses cours.
J'authentifie, je statue, j'annonce que effectivement, je sais le lire.
Non, parce que pour moi, elle apprend en s'en souvenant, donc ça ne fonctionne pas. Enfin, elle apprend en voyant le futur.
Oui, mais non, c'est pas ça. En fait, donc, c'est simplement que c'est une escale pour nous aussi, spectateurs. Donc, elle l'annonce, lui annonce sa vie. Et. À nous, spectateurs, ça a atteint un tel niveau de lecture qu'elle est capable de le dire.
Non, pour moi, non, il y a vraiment un paradoxe. Le montage et tout nous montre que, bam, elle se voit, revoit les cours, elle voit le bouquin, et que c'est là qu'elle comprend ce qu'il y a sur l'écran.
Oui, mais c'est un autre destination. C'est...
Ben non, moi, je crois pas. À chaque fois qu'il y a des flashbacks comme ça, des flash forward, c'est elle qui
est particulier. On n'a pas la même lecture.
Ouais, non, je sais pas.
Mais est-ce que le paradoxe, il existe pour nous parce qu'on a un langage dans le temps qui est causal, et si on considère que les étapodes, il n'y a pas de temps qui existe, et que tout est en même temps, voilà, qu'il n'y a qu'un seul moment, et c'est à l'éternel présent, la totalité de la vie de celui qui s'en souvient, c'est une mémoire intégrale de tout, de la naissance à la mort,
mais...
temps. Donc le paradoxe, il est qu'on raisonne dans le temps, dans la vie continue, dans le lien de cause à effet. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet, c'est.
Il y a quand même.
On va peut-être parler de ta pote, je comprends.
Ouais, mais alors il y aurait quand même. Ouais, ça peut être comme ça, mais alors chez les tapotes, il n'y aurait pas de création, en fait. Tu aurais plein de créations avec Nilo parce qu'on s'en souviendrait. C'est, ça apporte notre problème, mais voilà quoi. Dans ce cas-là. Ouais.
Ouais, je vois ce qui gêne dans la rétro-causalité, en fait. C'est vrai que tous les gens qui ont développé des théories sur les consciences quantiques, extra-neuronales et tout, ils le disent, genre, si par exemple la conscience elle est multitemporelle, donc en multidimensionnalité, genre, si jamais on avait accès à certaines sources d'informations comme ils font là, genre, elle s'effondrerait.
Mm-hmm.
Genre, on ne pourrait pas gérer un flux continu parce que dans ces théories-là, en fait, le futur, il est changeant. C'est une plaie du temps, mais qui est multiple. En fait.
Ouais, ouais.
Donc il y a plusieurs potentiels. Donc en fait, même si on pourrait pas avoir ce souvenir d'un seul futur, parce que du coup, en fait, la conscience, en fait, ouais, elle s'effondrerait sur elle-même de savoir tout ça en même temps des lignes temporelles qui changeraient entre elles, genre, ça tiendrait pas, on serait beaucoup dire le fou, quoi.
Mmh. Oui, ça, c'est sûr que...
Même pour notre mémoire du passé, c'est pareil, il y a des choses qu'on... entre guillemets, par exemple, je revois un film il y a des années, je me souviens plus de la fin. Mais au fur et à mesure que je revois le film, Donc il y a quelque chose qui, tout d'un coup, fait apparaître des souvenirs de ce qui va se passer ensuite dans l'histoire, mm-hmm. et que je n'avais pas avant l'ancien de ce moment.
Oui, oui. Mais ça, c'est le mécanisme.
Je pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir. Non, mais ce qu'ils veulent.
Ouais, je...
C'est qu'elle ne peut pas avoir tout dans la tête. Mais simplement, il y a des choses qui lui génèrent des flashs et plutôt.
Ouais, moi, c'est pas ça qui me gêne. C'est le fait que. Qu'elle n'ait pas appris. À un moment, il faut quand même qu'elle le.
Elle a appris la demi-heure du film précédent.
Elle l'a appris plus tard.
Ouais, mais c'est ça qui est.
D'accord, mais vu que c'est un film quand même sur le langage et sur les effets rétro-futurs, c'est vrai que ça peut poser problème, je comprends très bien. Après, il y a quand même finalement le propos à une sorte de une logique interne. Si
après, non, mais tout le reste est logique. Il y a que ce truc-là qui, pour moi, et il y a un autre truc que je vais vous montrer. Qui, alors là, c'est un problème de réalisation, je pense. Tu voulais dire un truc.
Non, mais j'allais dire que c'était le problème dans la plupart des films avec une histoire de temps. Dans la plupart des films, il y a des voyages dans le temps, surtout avec des boucles comme ça.
Ouais,
c'est dans Interstellar, c'est que dans Terminator.
Ouais, mais s'il n'y a pas de création de. Par exemple.
Si, dans Terminator, il envoie son père devenir son père.
Mais ça marche. Ça marche. Mais si.
Ça dépend, c'est comment on voit le temps.
Mais non, ça marche, puisqu'il sait, qu'il sait que c'est lui son père, donc il est obligé de l'envoyer. Ça marche carrément.
Ça, il n'envoie pas, il n'existe pas.
Ouais, mais il l'envoie. Ce qui ne marche pas, en fait, c'est si par exemple, le père de. Bah, on va prendre cet exemple. Ouais, voilà. Lui donner dans le futur, il lui donne un pendentif. Il lui donne un pendentif. Non, alors, Connor donne un pendentif à Kyle Reese pour qu'il reparte dans le passé avec. Ouais. Mais la photo, elle est prise à un moment dans le film. Donc ça marche. Donc, mettons qu'il lui donne un pendentif et que Kyle Reese revienne dans le passé et donne ce pendentif à la mère, que la mère donnera à son fils après. Et que le fils redonnera à son père. D'où sort le pendentif? C'est là où il y a un paradoxe. C'est quand l'objet, il est pas créé ni pas. Il n'est pas acheté, il n'est pas. La photo, elle est prise à un moment, et on la donne, ok. Et elle a une origine. Là, c'est le genre de boucle qui ne fonctionne pas parce qu'il y a création d'un objet ou de quelque chose ex nihilo. C'est le même principe que là. Elle apprend un truc qu'elle a pas appris.
Mais il y a une différence quand même entre la création d'un objet et la création de matière. Et le fait d'avoir de la connaissance.
Quand elle dit qu'elle apprend, elle n'apprend pas la totalité. Elle commence à apprendre. C'est ce qu'elle dit.
Ok, bon. Moi j'ai vu ça comme un paradoxe. Bon, voilà. Il y a un autre truc qui m'a. Alors là, qui est vraiment ridicule, je vous le mets. Là, c'est vraiment ridicule parce que. Vous allez voir, au niveau de la réal, je me dis, le réal, il n'a pas compris ce qui se passe en fait. Alors c'est à la fin quand elle va voir le chinois. Ah, j'ai toujours pas les sous-titres, mais vous parlez tous anglais.
Arthur Banks. A pleasure.
General Shen, the pleasure is mine, really.
Your president said he was honored to host me at the celebration.
Yes.
But I confess. The only reason why I'm here is to meet you in person.
Il est venu la voir.
Me? Well, I'm flattered. Thank you.
Now, 18 months ago, you did something remarkable. Something not even my superior has done.
What's that?
Donc, il y a 18 mois, vous avez fait un truc vraiment remarquable que même mes parents n'ont pas fait. C'est quoi? Tu sais, c'était il y a 18 mois. Bon, bref.
You changed my mind.
Vous m'avez fait changer la vie.
You're the reason for this unification. All because you reached out to me on my private number.
C'est grâce à vous, parce que vous m'avez appelé sur mon
nom. Your private number, General, I don't know your private number.
Ah, mais je ne connais pas votre numéro privé.
Now you know. I do not claim to know how your mind works, but I believe it was important for you to see that.
I called you, didn't I?
Vous avez appelé?
Yes, you did.
Mais oui, tu l'as appelé il y a 18 mois, tu le sais. Pourquoi elle fait la noce? Je vous ai appelé? Non, mais oui, tu sais que tu l'as appelé. Alors ça, ça m'a rendu fou par contre, parce que même dans la logique du film, je veux dire, c'était il y a 18 mois, elle s'est souvenue de son numéro, et là, elle a comment votre numéro? Je ne l'ai pas. Alors je veux bien qu'elle fasse comme si elle ignorait tout, mais j'ai réfléchi. Je vous ai appelé? Mais oui, tu l'as appelé, tu t'en souviens pas?
Mais cette scène et les scènes que vous avez montrées tout à l'heure, au moment où je l'ai vu la première fois, je me suis posé la question, est-ce qu'elle voit réellement dans le futur, enfin, est-ce qu'elle se souvient réellement du futur, ou est-ce qu'elle peut acquérir la capacité de faire voyager sa conscience à différents moments du présent? Et pour moi, en fait, c'était ça le propos du film, mais qui du coup différait du propos du livre, c'est qu'en fait, elle peut être consciente à différents moments de son propre présent.
Je comprends pas.
C'est pas des souvenirs, c'est son esprit qui se déplace dans.
C'est ça, un peu à la Interstellar en fait.
Ok, mais là c'est quand même con parce que c'était quand même il y a 18 mois, elle s'en souvient.
Mais parce que du coup, puisque le temps sera plutôt circulaire plutôt et non pas linéaire, quelque chose dans le futur peut avoir une incidence sur quelque chose qui arrive dans
d'accord,
le présent.
D'accord, ouais, c'est ok. Mais quand même, elle continue à vivre sa vie.
Mais non, pas de manière linéaire en fait, qu'elle sauterait plus ou moins à certains moments.
C'est pas ce que le film dit. Puisqu'à la fin, elle dit tout ça va se passer.
Bah, c'est pas ce que le livre dit, mais je trouve que le film nous laisse quand même un flou par rapport à ça. En tout cas, ce genre de scène.
Ben, vous voyez. Voilà, moi, cette scène, je la trouve. Alors, si on part de cette hypothèse, ça peut marcher.
Ouais.
Si on part de mon hypothèse.
Effectivement, ça.
Là, il y a un problème même de compréhension par les créateurs du film, quoi.
Non, mais moi, je la relance exactement comme ça que je pense.
D'accord.
Bon, ok. Et c'est les théories qu'il y a actuellement, de toute façon, aussi. C'est pour ça que la théorie de Sapir-Whorf, elle n'est pas déconnante du tout.
De quoi En fait, que elle, donc, elle.
Elle a été réfutée il y a longtemps.
Non, mais.
Elle revient sur le devant de la scène.
Pour le perso, elle voit pas le futur, mais elle.
Mais c'est pour ça qu'on a du mal à le conscientiser, c'est que justement, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais effectivement, ce serait dans ce cas-là, c'est possible que tout influe sur tout nous. C'est le présent ou le futur.
D'accord, en fait. Mais ça, non, c'est ça,
de
ce que je comprends pas, c'est comment elle peut ne pas se souvenir de son passé. Là.
Parce que là, c'est pas encore. Alors, c'est peut-être que c'est pas encore arrivé. Il faut que ça s'arrive dans son futur pour qu'elle puisse s'en souvenir.
Le futur arrive avant le présent.
C'est ça.
Ben non, parce que pendant tout le film, elle a des souvenirs du futur.
Mais pas tout, elle les a pas tous compris.
Ouais, mais là, c'est par rapport au passé, donc c'est pas un souvenir du futur.
Ouais. Et pourquoi il monte sur son téléphone là? Qu'est-ce qui le motive à montrer le téléphone? C'est son étonnement qui le motive à montrer le téléphone. Sinon, il ne sort pas son téléphone pour lui montrer.
Ah, mais il est déjà venu exprès pour lui montrer. Avant d'arriver, il sait qu'il va lui montrer. Ça, ça me paraît évident.
Qu'est-ce qui motive à quelqu'un de montrer son téléphone?
Ben, parce qu'elle avait son numéro et elle lui a dit quelque chose que sa femme dit. Pour moi, c'est. Il faut arrêter, je suis désolé. Alors que vous auriez plein de questions.
Il y avait une différence aussi, c'est que Marie n'existe pas dans la nouvelle.
Si,
il rentre ici. Il n'a pas sa place, mais là, elle ne lui donne pas une information pour être.
Si, il est présent parce qu'il a divorcé, ça l'a fait chier de voir la nouvelle femme. Tout ça. Merci à tous, c'était très intéressant. Enfin, je vous avais dit parce que.